France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est le troisième épisode du Journal de ma vie, la série d'Adila Benedjaïzou autour des journaux intimes. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec Guillaume Ancel, un ancien officier de l'armée française et élève de la fameuse école de Saint-Cyr, qui a notamment participé à l'opération turquoise au Rwanda, est parti en mission ensuite à Sarajevo et puis il a quitté l'armée de terre en 2005 pour rejoindre le monde civil, comme on dit. Or, depuis toujours, Guillaume Ancel écrit des livres. Et il tient un blog, devenu aussi une newsletter, intitulée « Ne pas subir », qui est aussi la devise du maréchal de Lattre de Tassigny, figurez-vous. Guillaume Ancel, je le précise, est aussi connu pour avoir dénoncé le rôle de la France, ou plutôt de l'Élysée, dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Avant l'ère technologique, lorsqu'il était militaire, il écrivait aussi, mais sur ce qu'on appelle un « logbook ». C'est le nom militaire d'un journal d'opération. Il en lit tout de suite des extraits à Adila Benedjaïzou et raconte une des premières fois où il a décidé de ne pas subir, un récit d'aventure et de désobéissance qui se déroule au Cambodge dans les années 90.
Dimanche 21 juin, quel spectacle désolant. Le Cambodge ressemble à une civilisation qui s'éteint. Tout est détruit, ravagé, bien pire que vandalisé. Ce fut sans doute très beau et très luxueux, mais il n'en reste rien. Saccage affligeant. Les Cambodgiens ont détruit le Cambodge, une civilisation s'est éteinte, l'ONU tente de ranimer les dernières braises.
Vous vous en doutez peut-être, le journal intime est une pratique majoritairement féminine. Ça ne signifie pas que les hommes n'écrivent pas, mais ils écrivent moins.
J'avais un petit carnet bleu comme la couleur de mon casque.
Ou alors, quand ils écrivent, ils n'appellent pas ça un journal intime. Ils disent plutôt carnet ou agenda.
On dit journal d'opération dans l'armée, logbook.
Ou comme notre invité d'aujourd'hui, Guillaume, un logbook. Le logbook est une tradition militaire. Et Guillaume a débuté le sien en 1992 quand, jeune capitaine d'infanterie, il est détaché au Cambodge.
Et je m'étais dit que c'était important que tous les jours j'écrive un peu, sans trop réfléchir à qui le lira. Et en réalité, je n'ai jamais laissé personne le lire jusqu'ici.
Vous connaissez peut-être Guillaume Ancel, car il est l'un des rares officiers envoyés au Rwanda à avoir témoigné que l'armée française avait collaboré avec les responsables du génocide. Il a littéralement pulvérisé la tradition de la Grande Muette. Et en feuilletant son journal du Cambodge, on peut lire comment, dès sa première mission, le jeune officier Ancel a appris à désobéir.
Je venais d'un milieu, la grande bourgeoisie textile lyonnaise, qui n'avait aucune culture militaire. Et donc je suis parti à Saint-Cyr à 19 ans, contre l'avis de ma famille, qui était un peu consternée, qui se disait au mieux ce sera un fonctionnaire, au pire ce sera un mercenaire. Et j'ai trouvé très très dur cette carrière, les années à Saint-Cyr, et puis après les années dans l'armée.
Pour sa première mission à l'étranger, Guillaume est envoyé au Cambodge comme casque bleu. Le pays a été ravagé pendant 20 ans de guerre froide, mais le bloc soviétique vient de s'effondrer. Et le monde a envie de penser que les guerres vont disparaître avec lui.
Et fin 91, l'ONU arrive à faire signer des accords de paix, qu'on a appelés les accords de Paris, qui ont été signés par les grands chefs militaires de l'époque, c'est-à-dire en fait Pol Pot, Hun Sen et le prince Sihanouk. Le problème, c'est qu'une fois que ça a été signé dans un hôtel parisien, il fallait le faire appliquer dans un pays qui a été ravagé par 20 ans de guerre civile. Et notamment par l'épisode absolument monstrueux des Khmers Rouges. Au total, il y a pratiquement 3 millions de la population cambodgienne, qui n'en comptait que 10, qui a disparu pendant ces 20 ans.
L'ONU a un premier objectif, identifier et désarmer les combattants. Pour remplir cette noble mission, Guillaume décolle de la base militaire de Wittlich. Il laisse derrière lui son épouse et ses deux filles, dont la plus jeune a moins d'un an. Le matin de son départ, il écrit « Départ le mardi 19 mai 1992.
Baiser, gorge serrée, à 7h, moins le quart, de Wittlich, que je ne reverrai qu'en novembre à la fin de cette année. Les feuilles seront tombées. Mes premières pensées vont à Emmanuel, Camille et Victoire, mes deux petites filles. » En fait, quand je suis parti au Cambodge, j'avais évidemment un sentiment partagé. Partagé parce que j'étais marié, j'avais deux petites filles et j'avais l'impression de les laisser un peu derrière moi. Mais j'étais rentré dans l'armée pour faire ça, c'est-à-dire pour intervenir. Et j'attendais avec impatience de partir en opération puisque ma génération est celle qui a vu le mur de Berlin s'effondrer en Europe et qui s'est profondément questionnée sur quelle était, du coup, notre utilité.
Pourtant, dans les premières pages du journal de Guillaume, ce n'est pas la question du sens de sa mission qui retient l'attention, mais des détails très prosaïques. Il écrit le 22 mai 1992. L'affaire du jour est sans conteste le béret bleu gigantesque qui nous est fourni aujourd'hui.
Plusieurs passages sous l'eau chaude pour le faire rétrécir. Moult essayage, c'est la tendance du siècle. En fait, cette question de béret qui peut paraître complètement anodine, dans l'armée française, c'était extrêmement important de respecter des canons de beauté particuliers. Quand on vit sous uniforme, il faut se différencier à tout prix. Et il faut montrer que on est capable de rendre le plus élancé et proche du corps ces uniformes qui sont faits pour vous faire ressembler à rien. En particulier les bérets qui sont toujours un peu trop grands, on les fait rétrécir, c'est de la feutrine, pour qu'ils soient le plus petit et plus ramassé possible et qu'on ait l'impression qu'à la fin ils soient juste peints sur le sommet du crâne qui évidemment est totalement rasé. De même que on faisait placer des élastiques derrière la veste pour essayer de lui donner une allure élancée et non pas avachie, et que les pantalons étaient raccourcis et ça aussi d'élastique pour leur donner une forme parfaitement adaptée à la silhouette de chacun d'entre nous. Rien n'est censé nous distinguer, alors tous déploient une énergie considérable à se différencier.
Mais pour Guillaume, porter l'uniforme n'est pas seulement une affaire de distinction, c'est aussi une responsabilité morale. Et cette responsabilité l'empêche de participer à certaines pratiques de camaraderie militaire. Il écrit, dimanche 24 mai, déjeuner sur le Mékong. Malaise général causé par la présence
de la maîtresse du lieutenant-colonel, notre chef, et d'une autre taxi-girl. Le restaurant est sur le Mékong, offrant une vue très belle et très dépouillée, mais l'eau est incroyablement crasseuse et nous préférons ne pas nous baigner. Mes camarades nous débarquent dans un bar à taxi-girl, mais je refuse catégoriquement d'être distrait par une de ces prostituées. Je pense à ma femme, j'aimerais qu'elle soit avec moi. En fait, ça a été une question assez délicate parce que je ne peux pas juger du comportement de mes camarades, ils étaient assez grands pour décider tout seuls. Mais je trouvais qu'il y avait un très grand décalage entre l'affirmation permanente de valeurs, et puis alors en particulier, il y a une empreinte de l'esprit catholique. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas frotter, etc. Puis le fait que dès qu'ils étaient loin des yeux, ils se comportaient pour moi comme des Zoulous, dans la mesure où ils étaient mariés. Et puis surtout, on intervenait dans un pays étranger, donc on devait avoir un comportement pour moi exemplaire. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle sur place. C'était une privation assez rude, mais j'estimais que c'était normal vis-à-vis de ma famille et que c'était normal vis-à-vis de cette opération.
En dehors de ses frères d'armes, Guillaume découvre surtout qu'il est une cheville ouvrière de l'ONU, une bureaucratie qui a des exigences parfois contradictoires avec les besoins du terrain. Il écrit...
J'ai trouvé un 13e défi pour Hercule, obtenir quelque chose de l'UNTAC, les Nations Unies. Je frise la crise de nerfs et j'obtiens bon gré mal gré l'essentiel de ce que nous attendions. Un frigidaire, magnifique, qui rentre à peine dans la voiture, quelques casquettes bien plus agréables que de porter les bérets, mais qui avait été proprement réquisitionné par la police civile. En fait, nous allons aller de surprise en surprise. Alors qu'on a eu des années d'entraînement et de formation, rien ne nous a préparé à cette mission, qui est une mission tout à fait étonnante. D'abord, c'est la plus grosse mission de l'ONU depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 40 000 personnes qui vont se déployer pour appliquer les accords de paix. C'est la première grosse mission de l'ONU depuis la fin de la guerre froide. Mercredi 3 juin 1992. Nous bouclons nos préparatifs, sans doute pour partir demain pour Kompot. Course avec mes compères irlandais et chinois, c'est assez cocasse. Lee est particulièrement tenace pour négocier les prix. Le major russe, qui est le chef de groupe, est à mon avis un ancien commissaire politique ou un membre du KGB. Et je reste assez méfiant. Je me retrouve avec des officiers roumains, allemands, des polonais, des russes, des Chinois qui jusqu'ici étaient considérés comme nos pires ennemis. Et donc j'ai eu un moment d'hésitation de me dire, mais est-ce qu'on se bat contre eux? Est-ce qu'on se bat avec eux? On venait d'être formés pendant 20 ans à se battre contre l'armée soviétique. Et là, il y a des soldats russes qui me disent, salut, ah bon, toi t'es français, alors tu seras dans telle équipe, etc., etc. Mardi 9 juin. Départ en reco pour Kampot. Nous arrivons. Après une route très belle et très longue dans un chef-lieu de district qui fut très beau, il y a déjà longtemps. Mercredi 17 juin. Dernier repas civilisé au Crackers. Un coup de fil, c'est court, brutal et restreint. Mais c'est bon d'entendre Emmanuel. Là, j'imagine que c'était une ligne téléphonique par satellite. On payait, bien sûr, nos communications. Donc, dans mon souvenir, ça coûtait $100 les 10 minutes, temps d'accrochage inclus. Donc, si on tombait sur le répondeur de sa maison, parce qu'il devait y avoir presque 12 heures de décalage horaire, c'était, comment dire, une forte déception de pouvoir entendre sa propre voix, annonçant qu'on pouvait toujours laisser un message. Donc, les contacts très difficiles. Ils ont été essentiellement par lettres. Et en fait, je recevais des lettres avec à peu près un mois de décalage.
Les contacts deviennent d'autant plus rares et difficiles que Guillaume est envoyé dans la région de Kampot, dans le sud du pays. Sur place, il essaye de se faire une idée sur les deux adversaires qu'il est censé réconcilier. Il y a d'une part les KPAF, les troupes du pouvoir en place avec qui il est en contact quotidien, et leurs opposants, les Khmers rouges, qui se cachent dans la jungle. Il écrit « Samedi 20 juin. Je commence seulement à travailler comme observateur militaire aujourd'hui, après un mois de patience abusée. »
Le lieutenant-colonel Stolz est arrivé ce matin en hélico pour nous rencontrer avec le gouverneur Khmer et le chef des forces locales, les KPAF. Les forces gouvernementales refusent de désarmer tant que les Khmers rouges les menaceront. Et le lieutenant-colonel leur propose donc la protection de l'ONU.
En fait, leur jeu est trouble. Et ils cherchent surtout à consolider ses positions et tenir le terrain en vue des élections.
La mise en place a été extrêmement laborieuse. On avance en terrain miné, au sens propre comme au figuré. C'est le pays le plus miné du monde, donc il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on fait. Et en terrain miné parce que, encore une fois, les chefs des factions ont signé des accords, mais leurs troupes sur le terrain ne sont pas forcément d'accord avec ça. Puis ça fait longtemps qu'ils n'obéissent plus à personne et qu'ils survivent en trafiquant. Donc le fait de nous voir arriver avec un accord de paix leur disant en substance « maintenant il faut désarmer et il faut reprendre une vie civile normale », remporter un succès mitigé. Mercredi 24 juin. Nous ne verrons pas le premier terrain en plein territoire Khmer Rouge. Ceux-ci refusent sans appel toute tentative de notre part à cause d'un curieux dialogue radio entre les forces gouvernementales et les Khmer Rouges, ponctué d'insultes et de connivences aussi. En fait, on voulait installer un camp de réfugiés pour le compte du Haut Commissariat aux réfugiés. D'ailleurs, c'est un Français qui s'occupait de ça, qui était d'origine tunisienne et qui est né dans la même rue que moi à la Croix-Rousse à Lyon. Et lui avait repéré un terrain qui était assez vaste, mais qui était une ancienne ligne de front entre Khmer Rouge et soldats gouvernementaux. Et donc notre sujet, c'était d'arriver à convaincre les uns les autres, d'une part, de cesser les combats. Après, il fallait déminer ce terrain. Et là seulement, on pouvait faire revenir des réfugiés qui étaient en Thaïlande. Et mon camarade est un extraordinaire polyglotte. En fait, il parle 12 langues. Et évidemment, il ne le dit pas. Donc là, pour venir au Cambodge, il a appris le Khmer, le cambodgien. Et donc il est à côté de moi. Et puis l'officier en charge du territoire, l'officier gouvernemental, donc des KPAF, prend son talkie-walkie et il appelle le chef des Khmers rouges. Et on sent qu'il y a un langage fleuri, vous voyez, ça se voit à la tonalité et au mouvement du type. Mais mon copain me dit rapidement, tu sais, je parle quand même pas mal Khmer. Le chef des KPAF est en train d'expliquer au chef des Khmers rouges, il mêle en même temps des rendez-vous familiaux, en disant qu'il faudra venir pour l'anniversaire de la petite à tel moment, etc. Des insultes, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de trucs. Et surtout, qu'il est vraiment emmerdé à cause de ces cons de l'ONU qui veulent les empêcher de se battre à cet endroit et que ce serait bien s'ils acceptaient de tirer pour au moins nous faire fuir et nous donner une raison de s'enfuir. Et en fait, là où on est souvent binaire, on découvre qu'en fait, ceux qu'on croyait totalement opposés ont des relations évidentes, familiales, ancestrales, quotidiennes et qu'en même temps, ils sont prêts à se tuer.
Ce qui ressort du journal de Guillaume, c'est qu'il se retrouve dans une situation impossible. Alors qu'il est censé désarmer les troupes Khmer Rouge de la région de Kompot, il ne parvient même pas à les rencontrer en chair et en os. Alors que d'autres officiers de l'ONU se résignent à ne rien faire, Guillaume ne baisse pas les bras et profite de ses week-ends pour faire des excursions dans la jungle. Il écrit « Dimanche 2 août, baignade chez les Khmer Rouges. Nous récidivons et nous repartons jusqu'au croisement de la piste où notre message est toujours présent et nous avançons encore le plus loin possible.
Nous nous arrêtons sur une petite rivière magnifique et nous déjeunons là, trônant sur une chaise pliante au cœur du sanctuaire des Khmer Rouges. La chaleur est torride et en caleçon, je vais m'immerger prudemment dans un trou d'eau. L'eau est fraîche, délicieuse par ce temps, elle me rappelle l'Ardèche qui m'attend. J'ai décidé qu'on allait rentrer en contact avec les Khmer Rouges, alors que les soldats gouvernementaux nous disent « surtout ne le faites pas, ils vont vous tuer ». Et donc on décide d'y aller, c'est en pleine jungle, c'est une partie de jungle qui est difficilement accessible. On a la veille croisé des coupeurs de bambou, qui évidemment sont obligés de payer leur écho aux Khmer Rouges, qu'ils ne connaissent pas, mais quand on leur dit « vous pourriez leur laisser un message », ils le prennent. Donc on comprend bien qu'évidemment ils les rencontrent tous les jours. Et on vient le lendemain pour voir si les Khmer Rouges, on leur a dit qu'on reviendrait le jour d'après, à telle heure, à tel endroit. En fait, les Khmer Rouges vont pas venir et on prendra contact avec eux un peu plus tard. Mais ce que je voulais surtout montrer aux Khmer Rouges, c'est qu'on n'était absolument pas effrayés. Et que là, on est au milieu de leur territoire, on s'installe là avec le capitaine irlandais. Et surtout, ils n'imaginaient pas qu'on soit là sans protection. Je suis à peu près persuadé maintenant qu'ils devaient être pas très loin dans la jungle en train de nous observer. Moi, à moitié à poil dans mon trou d'eau, et de se dire, ils sont complètement dingues.
Peu après cette drôle d'initiative, Guillaume rencontre des combattants Khmer Rouges pour la première fois. Il écrit.
Première rencontre avec les Khmer Rouges, et première déception. Ils ne ressemblent pas à des vampires, ils n'ont pas les yeux injectés de sang et le regard vide, des cerveaux lavés. Au contraire, ils ont bien meilleure allure que l'armée gouvernementale et CAPAF. Ils portent un uniforme correct, sont organisés et semblent même disciplinés. Un général nous parle avec courtoisie et ouverture d'esprit, est-ce avec de dangereuses arrière-pensées politiques. Il faut imaginer qu'avant de partir, on a été briefé par des éminents représentants du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui nous ont vraiment décrit les Khmer Rouges comme des espèces de brutes, avec les yeux injectés de sang. Je reprends leurs mots, hein. C'est vraiment, on les reconnaît tout de suite, hein, les Khmer Rouges. Bon. Puis la réalité, elle est évidemment toujours différente, ce sont des hommes et des femmes.
Guillaume a rempli la première phase de sa mission, mais sa liberté de penser et d'agir ne plaise pas à tous ses collègues. Il apprend du jour au lendemain qu'il est séparé du reste de son équipe et muté à l'autre bout du pays, à Beng Mengche. Il écrit « Mercredi 26 août, bercé d'illusions, je crois repartir pour Kompot. » Mais le major Azif me croise
et m'envoie, ou plutôt me confirme, qu'il m'envoie sur le poste de Beng Mengche. Je me sens acculé et me prépare donc à partir. À Kompot, dans le premier poste dans lequel j'étais, je me suis disputé avec des officiers français qui avaient le bataillon qui occupait l'ensemble du territoire. Comme la situation commençait à se tendre sérieusement entre nous, le général français qui dirigeait les unités françaises là-bas a pris une décision à l'emporte-pièce en disant « il y a 300 soldats français, il y a un capitaine français, donc le capitaine qui est tout seul, il a tort, c'est toi, et par conséquent, je te mute disciplinaire dans un endroit où personne ne veut aller, à la frontière du Laos. » Samedi 29 août, après un voyage en MI-26, plus grand qu'un transat et plus bruyant qu'imaginable, j'arrive avec mes gros sacs. Un capitaine anglais, Kendall, m'accueille avec le sourire. Mais il m'attend depuis 6 semaines. Kompot ressemble à un palace à côté de Beng Mengche, mon nouveau poste. Cette province est la plus pauvre du Cambodge, et cela se voit. Avec la mousson qui bat son plein, Beng Mengche est une île que seul l'hélicoptère permet d'aborder. Je paye cher ma grande gueule, mais c'est une nouvelle expérience que je dois mettre à profit. On est dans une des jungles les plus anciennes du monde, qui d'ailleurs aujourd'hui est un parc naturel. C'est une forêt primaire et dans laquelle il y a de toutes petites enclaves avec quelques paillotes. Ce sont des traces de vie qui essayent de se maintenir au milieu d'une nature qui leur dit « barrez-vous ». Et en réalité, c'était un immonde village abandonné au milieu des marécages dans lequel il ne restait absolument plus rien. La famine frappait cette région et les gens vivaient vraiment dans un état démuni, vraiment appauvri, n'ayant plus aucun soin, n'ayant plus aucun accès à aucun service. Samedi 5 septembre. Les nuages gris-bleus laissent apparaître les flashs éblouissants des éclairs. Des orages tournent en l'air dans un étourdissant balai. Nous partons enfin en patrouille dans une jungle magnifique. Mais le major Holcombe rebrousse prudemment chemin après seulement 12 km, pas de risques inutiles. C'est, je pense, à ce moment-là, une des seules provinces inaccessibles au Cambodge par la route. La route a été tellement minée que la jungle a fini par la recouvrir et que plus personne n'ose emprunter ses voies. Et donc les gens vivent dans une autarcie totale. L'ONU avait décidé que ses observateurs militaires ne seraient pas approvisionnés en bouffe. Elle nous versait une allocation quotidienne pour vivre. Donc le matin, on fait les courses sur le marché pour faire notre bouffe pour la journée. Si on dépense plus de 3 dollars sur le marché, on fait monter les prix. Et donc on s'interdit, on se limite absolument de tout. Et on vit avec très peu de choses. C'est la première fois que j'ai réellement eu faim, pendant des semaines, voire des mois.
Pour Guillaume, c'est un retour à la case départ. Il faut à nouveau qu'il arrive à rencontrer les troupes Khmer Rouge de la région à laquelle il a été affecté, avec une difficulté supplémentaire. La jungle est truffée de mines et aucun casque bleu ne peut sortir de la ville. Guillaume se creuse la tête pour échapper à ce piège.
J'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas marché.
Il écrit. J'emmène les carabiniers et un gendarme en patrouille dans le lit d'une rivière au milieu de la jungle.
Le seul axe de pénétration garanti sans ruine. L'eau au-dessus du genou, nous progressons lentement dans le lit que des crues violentes ont creusé profondément. D'étranges araignées rouges et noires ont tendu d'immenses toiles au travers des branchages. On a essayé les lits de rivière. Le problème, c'est quand on est dans le lit d'une rivière, si on se déplace à 1 km/h, c'est le grand maximum. Donc ça veut dire qu'en une journée, on arrive à faire 8-10 km et il faut faire le retour. Donc, sans intérêt.
Après cet échec dans la rivière, ses collègues de l'ONU conseillent à Guillaume d'accepter son sort et de rester en ville, comme tout le monde. Mais il continue à chercher une solution et, en désespoir de cause, interroge les commerçants du marché.
Et là, j'ai découvert un truc. C'est pour ça que c'est très important d'observer avec ses yeux et pas ses convictions. Que sur le marché local, que nous fréquentions donc tous les matins, les gens n'étaient pas tous de Dbeng Menché. Et donc j'ai commencé à les interroger. Et quand je leur disais, mais par quel chemin vous arrivez? Ils nous répondaient tous, par mon chemin. Et en fait, on a compris tardivement que bien sûr que les gens se déplaçaient. Il n'était pas question dans cette région de ne pas se déplacer vers la capitale, qui était le seul endroit où il y avait un peu de fric, où on pouvait acheter des trucs. Donc ils avaient tous en tête un morceau de chemin qui permettait d'aller d'un point à l'autre. Et il suffisait de rassembler comme une toile ces morceaux de chemin, comme des chaînons, pour en faire un réseau. C'est comme ça qu'on a fait pour se déplacer. Et à partir de ce moment-là, les différentes factions ont été bien emmerdées parce qu'elles nous voyaient débarquer alors que leur site était réputé inaccessible. Et donc de voir débarquer les observateurs militaires, ils ont compris qu'ils étaient obligés de rentrer dans notre mécanique de désarmement et d'application des accords de paix.
Dès lors que plus aucun combattant local ne se sent hors de portée, il devient possible de lancer l'opération de désarmement qui consiste concrètement à se faire remettre les armes qui sont encore aux mains des soldats sur le terrain. Guillaume écrit. Lundi 7 septembre, journée harassante mais intéressante.
Nous préparons activement le désarmement de 400 soldats de l'armée gouvernementale. L'opération qui était compliquée, qui était extrêmement fastidieuse, c'est que on voulait être sûr qu'en désarmant les soldats, de quelque faction qu'ils soient, en aucun cas ces armes ne soient réemployées. Donc, on les enregistrait méthodiquement avant de les enfermer dans des containers qui étaient pris par hélicoptère pour être emmenés vers un centre de destruction des armes. Donc, on notait, voilà, je me souviens avec des gendarmes, les numéros d'immatriculation de chaque arme. Donc, en général, ce sont des suites de lettres et de chiffres, comme sur les passeports, HK, 2512, A0, 05, 06, 07, B4, flingue suivant. Et je devais vérifier chaque arme, être sûr qu'elle soit en état de marche. Il y a un côté, la bureaucratie de l'ONU va tellement vous dégoûter de négocier que vous allez tous finir par céder.
Bien entendu, quand la mission de Guillaume s'achève, la paix est encore loin. Mais le Cambodge est engagé dans un processus démocratique. Guillaume, lui, a perdu 11 kilos durant cette opération. Mais il a gagné une précieuse connaissance du terrain et des grandes opérations internationales. Tout se complique quand il essaye justement de raconter son expérience. Il écrit. 19 octobre 1992. Long et fastidieux rapport pour essayer de fournir quelques informations utiles à mon régiment.
Je reprends toutes mes notes sur 5 mois. Je les compile, je les organise, puis j'entreprends de faire taper tout cela par Cham, qui ne parle pas un mot de français. Une belle galère. Je dois faire un rapport de fin de mission et je vais transmettre ce rapport à mon chef hiérarchique, qui est le chef des observateurs militaires français. Et lui va le censurer intégralement. Et ça va être un de mes premiers affrontements avec une hiérarchie qui ne comprend pas ma manière de fonctionner, puisque quand j'arrive au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, à la Valbonne en France, le colonel adjoint, qui est un type énorme, m'attend en disant « Bon, votre rapport pose problème, ce serait bien que vous le réécriviez, puis je vous aiderai à le réécrire d'une manière conforme. » Et je lui dis « Si vous le réécrivez, vous le signez. Mais moi, ce que j'ai écrit là, c'est ce que j'ai fait. À vous de choisir. » Et finalement, ils ont trouvé une manière très à eux d'éviter que ce rapport puisse être lu. Ils l'ont rendu secret défense. Cette expérience au Cambodge a fait de moi un homme différent. Parce que j'ai participé à 4 guerres, j'ai traversé 3 génocides. Et au Cambodge, pour la première fois, je suis confronté à un génocide. Parce que les traces du génocide sont omniprésentes. Les gens ne parlent que de ça, ou ils n'en parlent pas, parce que c'est un fantôme permanent. Il se trouve que 2 ans après, je vais intervenir au Rwanda, en plein génocide des Tutsis. Et c'est sans doute pour ça que je vais ressentir une colère terrible au Rwanda de comprendre que c'était le seul génocide que la France aurait pu empêcher. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait. 1 an après, je partirai à Sarajevo et j'assisterai impuissant au génocide de Srebrenica. Moi, j'ai longtemps pensé que j'avais suffisamment de maturité et d'énergie pour ne pas être changé par ces événements. Mais je me souviens qu'un jour, Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un grand professeur d'histoire, a interrogé ma femme, Emmanuel, au retour du Rwanda. Mais ça aurait pu être la même chose au retour du Cambodge. Et elle lui a dit, Emmanuel, comment toi tu l'as trouvé à son retour? Et Emmanuel lui a dit un truc terrible, dont je ne me suis jamais remis. Elle lui a dit, en fait, il était tellement affecté qu'on a tous fait semblant de ne rien voir pour lui permettre de revenir parmi nous. Et moi, j'étais tellement persuadé que ça ne se voyait pas que j'ai fait comme si ça n'existait pas. Pour moi, le métier de militaire, d'officier en particulier, c'est de savoir dire non. Parce que obéir est à la portée de tout le monde. Mais un officier, il est assermenté, il est responsable de tout ce qu'il fait. Depuis la jurisprudence de Nuremberg, il est établi qu'un officier ne peut pas dire qu'il a obéi à un ordre. Ce qu'il fait, il doit l'assumer. Et moi, ce que je regrette, évidemment, au Cambodge, on n'aurait rien pu faire. On a fait ce qu'on a pu pour stopper la guerre. Mais au Rwanda, ce qu'on a fait est inacceptable. Parce que on est intervenu pour soutenir l'armée gouvernementale, dont on pouvait prétendre qu'on ne savait pas ce qu'elle faisait, sauf qu'elle s'en vantait sur place. Et là, nous aurions dû nous rebeller et dire « ça suffit ». La grandeur d'un officier, c'est de savoir dire non.
C'était le journal de ma vie, 3e épisode avec Guillaume A., une série d'Adila Benedjaïzou réalisée par Clémence Gross et mixée par Olivier Arnay. Musique Rebecca Warrior, merci à Cyrus Mohammadi, à Valentin Rémy, notre attaché de production, et à Luce Mourant, notre stagiaire.